I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Della Posta et aujourd'hui, je fais équipe avec Julien Ferreira. Salut Julien, très heureux de t'accueillir dans les fous du volant.
Salut Gilles, très heureux de te retrouver et de retrouver tous les auditeurs.
On passe un salut amical à Stéphane Vrignot. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On va parler aujourd'hui, Julien, évidemment, de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par l'accrochage très spectaculaire entre Valtteri Bottas et George Russell en se demandant « Mais pourquoi tant de haine ?» Et puis, on va aussi évoquer les deux acteurs principaux de ce Grand Prix, Max Verstappen, vainqueur, et Lewis Hamilton, deuxième. Une course imparfaite, comme pour l'autre, mais leur talent et leur bonne étoile aussi, un peu, ont encore fait des miracles. Et puis, enfin, on reviendra sur le résultat de Ferrari, qui place ses deux voitures dans le top 5. Embellie confirmée, oui, mais attention, modestie exigée pour la Scuderia, et on vous expliquera pourquoi. On commence, Julien, si tu veux bien, donc par cet accrochage, je le disais, très spectaculaire entre Valtteri Bottas et George Russell dans le 33e tour de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Russell revient sur Valtteri Bottas, lui dispute la 9e place sur une piste qui est encore très humide, et les deux pilotes s'accrochent. Ça fait un gros accident, drapeau rouge, les deux voitures sont extrêmement endommagées. On va rappeler aussi dans le contexte que Russell est pressenti depuis pas mal de temps maintenant pour prendre un des deux baquets chez Mercedes, et on pensait notamment qu'il pouvait prendre celui de Valtteri Bottas, et il avait dominé le Finlandais l'an passé lorsqu'il avait remplacé Lewis Hamilton à Sakhir l'année dernière. J'aimerais bien avoir ton regard, Julien, sur cet accrochage et aussi sur la tension qui entoure cet événement.
Oui, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre, finalement. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Valtteri Bottas sur cet incident? C'est d'être là, finalement, d'être à se battre pour cette 9e place. On peut aussi lui reprocher quand même de lâcher un petit peu sa trajectoire, la trajectoire qui était sèche à ce moment-là, pour se déporter légèrement sur la droite, même si c'est vraiment infime. Et qu'est-ce qu'on peut reprocher à Russell? C'est de l'attaquer aussi vite, finalement. Maintenant, si on prend tous ces faits-là et qu'on les lit au contexte que tu as évoqué juste avant, est-ce que Bottas aurait agi de cette manière-là si ce n'était pas Russell derrière lui? Est-ce que Russell aurait agi de cette manière-là si ce n'était pas Bottas devant lui? Très honnêtement, je ne suis pas sûr. Je pense que Russell aurait été plus patient. Je pense que Bottas n'aurait pas été aussi strict sur sa trajectoire, parce qu'il ne fait pas partie de ces pilotes qui ferment la porte à tout va, Bottas. Alors, je ne dis pas qu'il ferme la porte vraiment de manière dangereuse, c'est vraiment infime.
Mais il y a quand même un mouvement.
Il y a quand même un mouvement, et pour reprendre des mots de Verstappen, Bottas, c'est pas le pilote le plus difficile à dépasser, en général.
Non, c'est clair, il est, on peut même régulièrement dire qu'il est un petit peu gentil, mais là, alors j'ai un peu le même sentiment que toi, c'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment eu le sentiment que Russell s'est dit « Eh, mais c'est ma voiture, ça !» Et donc, il a fondu dessus en oubliant un tout petit peu. C'est vrai que la trajectoire sèche, la seule qui pouvait être utilisée, n'était pas suffisante pour que les deux autos passent, et que fatalement, Bottas, lui, allait rester sur la trajectoire sèche, c'est-à-dire lâcher le côté gauche de la piste pour revenir un peu se mettre sur le côté droit. Il n'y avait pas la place pour les deux voitures. Et finalement, Russell, au lieu d'être plus précautionneux, précisément parce que c'est une Mercedes et qu'il fait partie du clan Mercedes, il a été beaucoup moins précautionneux parce que il n'a vu que Bottas, un peu à la manière d'un taureau qui voit un chiffre rouge, et il s'est dit, il faut celui-là, il faut que je me le fasse, hein, clairement, pour parler clairement, je vais me le faire. Et Bottas s'est dit, non, mais je ne peux pas me laisser dépasser par George Russell dans une Williams, parce que ça aurait été quand même le comble de l'humiliation, je pense, pour le Finlandais. Alors, c'est monté très vite, hein, le ton, hein. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Bon, déjà, Russell est descendu de la voiture, il est quand même allé mettre une petite tape pas très très amicale sur le casque de Bottas.
Après un geste qui n'était pas très très amical de Bottas, non plus, juste avant.
Voilà, un geste digital. Je ne l'ai pas fait, hein. J'ai fait celui-là, maman, hein. T'inquiète pas. Et puis, Toto Wolff qui en a rajouté une couche en menaçant plus ou moins d'envoyer Russell rouler en coupe Clio. Waouh, eh oh, quand même, les gars. Voilà, tout le monde a fait son job. Bottas a défendu, Russell a attaqué, c'est son métier, il est pilote. Et dans des conditions où la piste, finalement, gomme les différences entre les voitures, c'est le scénario idéal pour un pilote Williams de tout tenter. Chacun est dans son rôle et on a l'impression que c'est une bombe nucléaire, cet accrochage.
Oui, c'est un incident de course. Alors, si on en parle, c'est aussi parce que ça a été spectaculaire, finalement, ça s'est fait à très haute vitesse. Mais peut-être que si c'était un crash entre, je ne sais pas, une Haas et une McLaren, j'en sais rien, peu importe, mais on n'aurait peut-être pas autant parlé. Là, effectivement, il y a cet enjeu qui est derrière. Tu l'as dit, Toto Wolff était quand même assez véhément avec Russell. Il a aussi dit que Bottas ne devait pas se retrouver là, et ne devait pas être là à ce moment-là de la course. Maintenant, je pense qu'au moment de faire les comptes, quand il s'agira de faire les comptes à la fin de la saison ou plus tard, et de couper la poire en deux et de choisir entre Bottas et Russell, je pense que cet incident-là pèsera plus lourd pour Bottas que pour Russell, parce que finalement, Russell, il a le sens de l'histoire de son côté, et que s'il n'est pas dans une Mercedes aujourd'hui, ce n'est pas parce que Bottas est encore là, c'est parce que Hamilton est encore là et qu'on n'a pas voulu mettre Russell dans les pattes d'Hamilton. Donc, oui, je pense que sur l'incident, peut-être que la part de responsabilité de Russell sera plus importante. À long terme, je pense que les conséquences seront plus lourdes pour Bottas, finalement.
Ouais, je pense aussi. Mais finalement, moi, tu vois, dans cet enchaînement, Bottas et Russell, il y a toujours beaucoup d'adrénaline, hein, dans les moments qui suivent. Voilà, se sont dit leur vérité. On a vu que George Russell aussi, finalement, quelques heures plus tard, a commencé à faire son mea culpa en expliquant que c'était une opportunité de marquer des points et qu'on sait à quel point ça compte en ce moment. Parfois, on prend des risques. Je n'ai pas assuré et je dois en prendre la responsabilité, a-t-il dit. Je m'en excuse auprès de Valtteri, de mon équipe et auprès de quiconque a pu être déçu par mon comportement. Bon, voilà, comme ça, au moins, il fait le gars poli dans l'histoire. Mais finalement, celui qui est le plus sous pression là-dedans, c'est ni Russell, c'est ni Bottas. Pour moi, c'est Toto Wolff parce que que fait Bottas en 9e position à la bagarre avec George Russell? Enfin, il n'a pas à être là. Normalement, il doit être 5-6 places devant à se battre pour le podium si ce n'est pas pour la victoire. Or, si Bottas est dans le baquet, c'est aussi parce que Toto Wolff a été obligé ou a choisi de mettre le Finlandais à la place du Britannique. Donc, c'est quand même un gros coup de pression aussi pour Toto Wolff.
Oui, la pression, elle est sur Toto Wolff parce que Mercedes a toujours une stratégie de transparence en F1, que ce soit sur ses choix, que ce soit sur ce qu'elle gagne, que ce soit sur sa position en F1. Le sujet qu'elle a le plus souvent éludé, c'est celui du coéquipier d'Hamilton. On s'est toujours demandé pourquoi Hamilton n'avait pas un coéquipier plus challengeant pour lui. Wolff n'a jamais voulu dire que Bottas n'était pas au niveau auquel il devrait être dans une Mercedes. Et quand on a vu ce qui s'est passé en fin de saison dernière, quand Russell était dans le baquet d'Hamilton, voilà, le sujet s'est vraiment posé et au final, Bottas est resté. Donc évidemment, l'intérêt pour Wolff cette année, c'était que Bottas justifie encore sa présence dans ce basket-là. Et depuis le début de la saison, ce n'est pas du tout le cas. On a plutôt l'impression qu'il a lâché complètement mentalement, psychologiquement. Il a l'air fatigué, il a l'air épuisé, Valtteri Bottas.
Il donne l'impression d'être aux abois en ce moment.
Totalement, totalement. Et le problème, c'est qu'on n'est qu'à deux grands prix, qu'il en reste beaucoup, beaucoup. Donc, on va voir comment ça va se passer tout au long de la saison. Mais ça risque d'être très, très long, à la fois pour Bottas, aussi pour Wolff, parce qu'il va falloir justifier ça, finalement, tout au long de la saison.
Exactement. Et puis, c'est évidemment très préjudiciable aussi pour Williams, qui aurait eu grandement besoin des points que George Russell était sur le point d'aller chercher, mais voilà, il y a eu cette Mercedes devant lui qui l'a rendu fou, qui l'a fait perdre un petit peu ses moyens. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec toi, Julien, eh bien, c'est finalement les deux acteurs principaux de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, Max Verstappen et Lewis Hamilton, premier et deuxième, avec une course qui, à l'inverse de Bahreïn, hein, où Lewis Hamilton a récité vraiment parfaitement sa partition, tout ce qu'il fallait faire avec l'option stratégique de Mercedes pour réussir à inverser la tendance et s'imposer devant Red Bull et devant Max Verstappen, qui lui non plus n'avait pas grand-chose à se reprocher. Il n'avait pas fait d'erreur, c'est juste son équipe qui s'était fait piéger sur la stratégie. Eh bien, en Émilie-Romagne, finalement, autant Verstappen que Lewis Hamilton auraient pu tout perdre à plusieurs reprises dans ce Grand Prix. Si on les reprend de manière chronologique, ben, il y a déjà le très bon départ de Max Verstappen qui se retrouve à la hauteur de Lewis Hamilton au premier virage. Et là, contact entre les deux hommes. Hamilton perd un petit morceau de son aileron avant. Finalement, ce n'est pas trop préjudiciable, mais surtout les deux hommes auraient pu terminer tous les deux ce Grand Prix voilà, au bout de quelques centaines de mètres. Ensuite, un petit peu plus tard en course, Hamilton se loupe en essayant de dépasser George Russell. Voilà, pour le coup, Russell y était pour rien. Il se retrouve dans le bac à gravier. Et alors là, incroyable, marche arrière. On a l'impression qu'il est dans son scénic à l'hypermarché du coin avec maman et les enfants. Il vient de faire ses courses. Hop, marche arrière, ça repart, ça motrice. Magnifique, superbe. C'est bien une F1 dans un bac à gravier, ça roule très, très bien. Et puis Verstappen qui au restart, après donc le drapeau rouge, qui manque de partir en tête à queue. Et d'ailleurs, Charles Leclerc a été bien gentil de lui laisser le temps de revenir sur la piste. Et finalement, c'est lui qui gagne. C'est étonnant quand même ce scénario. Et surtout, cette différence entre Bahreïn, où les deux ont été vraiment impeccables, et puis bah là où le résultat final, et c'est premier, deuxième, OK, mais il y a quand même eu pas mal d'accrocs pour les deux.
Oui, il y a eu pas mal d'accrocs, il y a eu un petit peu de réussite parce que tu l'as dit, effectivement, tout aurait pu s'arrêter dès le premier virage. Je ne sais pas, une crevaison, par exemple, parce que les deux pilotes se sont touchés, même si en conférence de presse, Verstappen a dit que non. Alors, ouais. Lewis Hamilton lui a dit de bien revoir les images ensuite. Oui, il y a eu le petit coup de pouce. Alors, Hamilton a souvent eu, très souvent eu même le petit coup de pouce. Alors, le petit coup de pouce de quoi? De la réussite, de la chance, du règlement parfois, des commissaires aussi. On pense évidemment au scénario de son tout premier titre de champion du monde. On pense aussi à ses quatrième et cinquième titres au Mexique, où il doit faire une course. Alors, il aurait été champion dans tous les cas plus tard, mais ouais. Il vit des courses quand même très, très difficiles au Mexique deux années de suite. Au final, il est quand même sacré parce qu'il arrive à se remettre dans le bon chemin. Là, ce week-end, c'est un petit peu pareil. On se rend compte que Hamilton, il perd près d'une minute quand même dans le bac à gravier, c'est colossal. Ouais. Il arrive derrière à se retrouver deuxième, c'est que vraiment, il a réussi à se remettre en cause parce qu'on l'a vu, quand il y a eu le drapeau rouge, il s'est posé lui tout seul, il s'est isolé, il s'est mis même accroupi, on l'a vu sur les images, et il a fait le vide, et derrière, il a réussi à faire 15 tours de qualif. C'est
sensationnel. Mais rien que ça, on avait fait la différence l'année dernière, on avait fait un sujet. Avec Didier Clément, qui était l'ingénieur de Sébastien Loeb à l'époque des 9 titres de champion du monde du français en rallye, en faisant la différence entre la réussite et la chance. La réussite, c'est quand on prépare tout et que finalement les éléments s'enchaînent dans son sens. La chance, c'est quand on ne contrôle pas et que ben, ça tombe de votre côté. Là, que le drapeau rouge intervienne dans les secondes qui suivent sa manœuvre dans le bac à gravier, ça, c'est de la chance parce qu'il ne peut pas le contrôler. Après, la remontée qu'il fait, le fait d'arriver à se remobiliser durant cette interruption de course, ça, en revanche, ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est sa faculté à retrouver ses marques. Ce qui est intéressant, si on part du championnat, ça veut dire que déjà, Hamilton et Verstappen sont quasiment seuls au monde. Hein. 44 points désormais pour Hamilton, 43 pour Verstappen. Le point de différence, c'est le meilleur tour en course fait donc à Imola par Lewis Hamilton. Derrière, Lando Norris est à 27 points, donc il est déjà un petit peu plus loin. Charles Leclerc est à 20 points et Valtteri Bottas à 16. Et finalement, dans cette course, j'ai le sentiment, Julien, que ben, ceux qui n'ont pas fait de faute, c'est Lando Norris qui termine sur le podium. Et puis Charles Leclerc, on ne les a pas vus partir dans le bac à gravier. Il y a eu une sortie de piste pour Carlos Sainz. On a vu même Fernando Alonso faire quelques figures. Mais il n'y a pas la bonne étoile.
Oui, il n'y a pas la bonne étoile. Et d'ailleurs, il y a un exemple très concret là-dessus. C'est qu'au restart, Leclerc perd la radio. Donc, il ne sait pas exactement ce qui se passe derrière lui. Il ne sait pas exactement quand va se passer le restart. Et donc, il perd le contact avec Verstappen. Et derrière, il est attaqué par Norris. Ça aussi, c'est la petite étoile que Leclerc n'a pas eue. Pour revenir sur ce que tu disais sur Verstappen et Hamilton, pardon. Il faut quand même noter deux choses. Alors, on l'a dit, Hamilton, les tours de qualif après le restart pour avaler tout le monde jusqu'à arriver à cette deuxième place. Pour Verstappen, on peut retenir deux choses aussi. C'est l'aisance avec laquelle il se remet dans la course juste après son faux tête à queue avant le restart. Ouais. Il arrive à repartir derrière comme si ce n'était rien passé. Il creuse même, je crois, une avance d'une demi-seconde, je crois, à la première chicane, ce qui est colossal pour quelqu'un qui aurait pu douter finalement. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas si à l'aise que ça et qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. Et Verstappen aussi, le moment, alors ça c'était avant, quand il fait son premier pit stop, qu'Hamilton rentre un tour derrière lui et que Verstappen doit attaquer comme un fou dans le dernier secteur, colossal pour repasser devant Hamilton au moment de la première salve d'arrêt au stand, c'est là qu'on se rend compte que finalement ces deux pilotes-là ne doutent jamais. Ils savent se remettre en question en une fraction de seconde, et c'est peut-être aussi pour ça que l'écart paraît si grand finalement entre eux deux et les autres, Norris, Leclerc et tous les autres.
Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Hein. Souvent, les grands champions ont cette faculté à réussir à faire le job et en même temps à réfléchir à ce qui se passe autour d'eux. Et là, sur toute la première partie du Grand Prix, on entend des échanges radio entre Max Verstappen et son équipe. Et il demande à son équipe, alors on fait quoi? Ça en est où? Que font les autres? C'est incroyable parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'appuie pas sur pause au moment où il cause à la radio. Hein. Ça continue de défiler à 300 km/h. Et finalement, il a un échange avec le muret des stands pour savoir à quel moment il va falloir changer de pneu. Il y a une hauteur d'esprit par rapport aux adversaires qui est quand même assez exceptionnelle. Et franchement, moi, ça m'a bluffé. Mais là, oui, c'est vrai, c'était étonnant de voir finalement les deux même sur le podium, sur les deux premières marches du podium par rapport à Bahreïn, mais dans un scénario qui finalement est nettement moins immaculé pour eux qu'il ne l'avait été lors de la manche d'ouverture. Voilà, on verra, troisième Grand Prix, ça sera au Portugal, on verra si on aura encore un scénario différent et éventuellement un troisième vainqueur différent pour cette troisième course de la saison. Alors, autre point qu'on voulait évoquer durant les fous du volant avec toi, Julien, Ferrari, embellie confirmée, ça avait déjà débuté à Bahreïn, mais modestie exigée. Alors, c'est bien pour la rime, mais en même temps, ça résume bien la situation et notre sentiment. Charles Leclerc a terminé en quatrième position, Carlos Sainz cinquième. Ça veut dire que Charles Leclerc est désormais quatrième du championnat et la Scuderia est, elle, quatrième du classement des constructeurs au contact de McLaren. Leclerc, qui a longtemps été troisième, il a même été second au moment du restart. Sauf que la Scuderia avait opté pour les réglages de la monoplace de Leclerc. Ils avaient parié sur la pluie. C'est pas passé loin, mais forcément, avec l'interruption, une fois que la piste a séché, on a vu que Charles Leclerc n'avait pas pu résister à Lewis Hamilton, à Lando Norris, et donc il n'est pas monté sur le podium. Belle course aussi pour Carlos Sainz, hein, qui était 11e sur la grille, qui termine à la cinquième place. On sent qu'il y a des belles choses, Julien. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole tout de suite, ou alors on a résumé en fait les points encourageants pour la Scuderia. Déjà, donc ils ont les deux voitures dans le top 5, pour ce Grand Prix, quatrième et cinquième. C'était arrivé une seule fois, les deux voitures dans le top 5 l'année dernière, c'était en Turquie. On se souvient que Vettel avait terminé troisième et Charles Leclerc avait terminé quatrième. Et puis, autre statistique plutôt encourageante, seuls Mercedes, Red Bull et maintenant Ferrari ont placé leurs deux voitures dans le top 5 sur une course. Mercedes et Red Bull, c'était à Bahreïn, Ferrari, c'était donc à Imola. Et puis enfin, seuls Ferrari et McLaren ont placé leurs deux voitures dans les points lors des deux Grands Prix qui ont débuté cette saison. Ce n'est pas le cas pour Mercedes, ce n'est pas le cas pour Red Bull. Ils sont quand même en bonne compagnie, c'est des bons signes tout ça. Qu'est-ce que tu en penses toi, Julien ?
Oui, c'est des bons signes parce que finalement, ces statistiques, elles montrent qu'il y a une vraie progression pardon, par rapport à la saison dernière et que tout ce qui a été avancé ou dit par Mattia Binotto notamment, finalement, il y a une part de vrai. Oui, Ferrari a énormément progressé par rapport à la saison dernière. En même temps, ça aurait été difficile de faire pire. Sur les performances en elles-mêmes, moi, je dirais plutôt oui, mais parce que je ne suis pas encore convaincu. Je pense que l'écart entre McLaren et Ferrari est bien plus grand qu'on ne le pense. Je m'explique, quand Norris emmène McLaren et que finalement les performances des deux sont au plus haut niveau, eh ben, je pense que l'écart entre le pack Leclerc-Ferrari est plus grand qu'il ne l'est finalement, qu'il n'était en course dimanche. Il y a eu 2 secondes, je crois, à l'arrivée. En réalité, je pense que c'est beaucoup plus. Pourquoi ? Bah, évidemment, parce que au niveau du moteur, certes, Ferrari a retrouvé des couleurs, mais encore très loin du Honda et du Mercedes. Ça aussi, on l'a vu par rapport à McLaren. Et aussi parce que je pense que Ricciardo a une énorme marge de progression avec McLaren, qui n'est peut-être pas aussi grande pour Sainz chez Ferrari.
Alors, on va voir. Ce qui est clair, le point positif de la situation, c'est qu'ils ont montré depuis les deux premières courses de la saison, là, qu'ils ont réussi à tirer bénéfice vraiment de chaque situation où il y avait quelque chose à tirer. Ils l'ont fait admirablement. C'est bon signe parce que ça prouve aussi la fiabilité de la voiture. Mine de rien, c'est quand même pas... Quand on voit les grosses évolutions qu'il y a eu et sur le moteur, c'est quand même important. La fiabilité aussi des pilotes qui n'ont pas commis d'erreur. C'est bénéfique sur le plan comptable parce que, voilà, on l'a dit, quatrième du classement des constructeurs. Et du coup, ça mobilise vraiment toute l'équipe autour des deux pilotes. Ça crée une dynamique. On sent vraiment qu'il s'est passé quelque chose au sein de la Scuderia depuis le début de la saison. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, et c'était le cas à Bahreïn, et ça a encore été le cas à Imola, que finalement, ni Leclerc ni Sainz n'ont pesé sur la course. Ils ont réussi à aller chercher des opportunités, mais ceux qui ont fait la course, bah, c'est Verstappen, c'est Hamilton, c'est Norris aussi dans sa remontée en fin de course. Et on le voit, il manque encore des dixièmes en qualification pour être encore mieux placé. J'ai le sentiment aussi qu'on a profité de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de cas de figure du côté de chez Ferrari. J'ai le sentiment qu'il va falloir un petit peu de temps aussi à Charles Leclerc pour retrouver l'espèce de côté très animal qu'il avait. On se souvient de ses bagarres l'année dernière, enfin pas l'année dernière d'ailleurs, il y a 2 ans en Autriche avec Max Verstappen, où tu vois la petite hésitation qu'il y a eu au moment du restart, la faute de Verstappen, je pense qu'il y a 2 ans, Leclerc serait passé. Il n'y aurait pas eu de question. Là, on sent qu'il a été un petit peu émoussé et qu'il va lui falloir un petit temps d'adaptation pour retrouver finalement l'instinct de tueur qu'on doit avoir quand on va briguer des places sur le podium et des victoires potentielles.
Oui, c'est peut-être aussi lié au fait qu'il n'est plus tout à fait au pied du mur comme il l'était la saison dernière parce que les performances de la Ferrari étaient vraiment catastrophiques et que finalement, le salut de Ferrari passait uniquement par lui. Ce n'est plus tout à fait le cas et donc effectivement, ce n'est plus tout à fait le même statut et il va falloir qu'il appréhende ça de nouveau. Pour compléter ce que tu disais, je pense qu'il faut aussi se méfier, non seulement de McLaren, ça on l'a dit, mais d'AlphaTauri. Pierre Gasly a eu très peu de réussite depuis le début de la saison. Je suis intimement convaincu qu'il va pouvoir, dans les prochaines semaines, prochains Grand Prix, challenger beaucoup plus, avec beaucoup plus de force les Ferrari sur les prochains Grand Prix. Tsunoda, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est encore en pleine phase d'apprentissage. Il fait encore beaucoup d'erreurs, on l'a vu ce week-end. Gasly, il a beaucoup de certitudes. Là, il y a eu un mauvais choix stratégique dimanche. Sur le Honda, on sait qu'il est beaucoup plus puissant que le Ferrari. On sait que l'AlphaTauri est bien née aussi, qu'elle est plutôt facile à piloter. Donc, je pense que ce package-là, Gasly, AlphaTauri, Honda, va finir par être inquiétant pour Ferrari parce que finalement, McLaren est devant encore aujourd'hui.
Écoute, on ne s'en plaindra pas. Maintenant, il va falloir voir si la dynamique qu'on évoquait là chez Ferrari perdure. voir aussi comment ça continue de travailler entre Leclerc et Sainz. On a des retours comme quoi ça s'est très très bien passé depuis le début de la saison. Ça se voit parce que effectivement la voiture a progressé et que les points sont là, et c'est quand même le principal.
Surtout, c'est pour ça que Sainz est là.
Oui.
C'est pas le coéquipier qui est réputé pour.
Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et puis maintenant, ce qu'il faut, c'est la prochaine étape pour Ferrari, c'est peser sur les courses, sur certaines options, obliger finalement les adversaires à tenir compte de la stratégie ou du jeu de Ferrari, parce que pour l'instant, ils sont un petit peu sous les radars par rapport aux adversaires.
Oui, et puis on sait bien que Pérez ne va pas se retrouver dans la situation dans laquelle il était dimanche toutes les semaines. Ricciardo doit progresser, donc normalement tout ça doit se resserrer et Ferrari n'en sera probablement pas le bénéficiaire.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il n'y en aura pas la semaine prochaine. On va faire relâche et on ira le week-end suivant, ça sera le 2 mai, me semble-t-il, sur le circuit de Portimão au Portugal. Là aussi, on va se régaler parce que c'est vraiment un tracé qu'on a découvert un petit peu par la force des choses l'année dernière, qu'on a découvert en Formule 1, parce que les amateurs de moto le connaissent déjà bien. Mais ça va être un superbe tracé. On se retrouvera la semaine prochaine dans les Fous du Volant pour se mettre en condition pour ce Grand Prix du Portugal. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast, par Apple Podcast aussi. Vous n'hésitez pas, allez-y, donnez-nous des étoiles, plutôt 5, c'est mieux. Et puis abonnez-vous, comme ça, quand on fait un nouvel épisode des Fous du Volant avec Julien ou avec Stéphane, et ben vous le recevez directement dans votre application. Merci Julien.
Merci à toi, Gilles, merci à tous.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, on coupe le contact.